Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Aboubakar al-Baghdadi apparaît dans une vidéo, une première depuis 5 ans. Le chef du groupe État islamique y déclare que les attentats menés au Sri Lanka ont été fomentés en représailles à la perte de Baghouz en Syrie. Nous analyserons cette vidéo dans un instant.
Et puis, nous revivrons aussi le premier meeting de campagne du démocrate Joe Biden en Pennsylvanie aux États-Unis. L'ancien vice-président américain chasse sur les terres de Donald Trump.
Une baleine avec un harnais russe, elle a été observée près de la Norvège. Les autorités du pays et la communauté scientifique y voit l'ombre du Kremlin, une affaire d'espionnage peut-être. Nous nous y pencherons.
Et puis, nous reviendrons sur le calendrier des réformes présenté hier par le Premier ministre Édouard Philippe. Pour lutter contre la fraude fiscale, il attend les propositions de la Cour des comptes en octobre.
Dans un quart d'heure après ce journal, Frédéric Seyss nous rejoindra pour son billet politique. Après les élections espagnoles, il se demandera ce que les partis politiques français peuvent en tirer. Cela faisait 5 ans qu'il ne s'était pas montré. Des années d'ailleurs qu'il a plusieurs fois été annoncé mort. Le chef du groupe État islamique, Aboubakar al-Baghdadi, est apparu hier dans une vidéo diffusée par l'un des organes de propagande de Daesh. L'homme qui se présente donc comme s'il était al-Baghdadi évoque sa défaite à Baghouz en Syrie, mais aussi la mort des frères Klein et les attentats d'il y a 10 jours au Sri Lanka. Analyse de notre correspondant dans la région, Aurélien Colli.
Les images rappellent les vidéos d'Oussama Ben Laden après le 11 septembre 2001. Aboubakar al-Baghdadi est assis par terre, sur des coussins, dans une pièce sobre, impossible à identifier. Kalachnikov à portée de main pour l'image du combattant, chèche sur la tête, barbe teinte grisonnante et ton posé pour l'autorité. Mais si Ben Laden avait fait de cette propagande sa marque de fabrique, pour al-Baghdadi, cette vidéo est une première. L'homme le plus recherché du monde est surnommé le fantôme. Quelques images seulement de lui en 2014, quand il se proclame calife de l'État islamique à Mossoul, sinon rien que des enregistrements audio. Après la perte de l'espace géographique, il doit occuper l'espace virtuel, explique un spécialiste. Avec cette vidéo, avec ses références à sa défaite à Baghouz fin mars et à l'actualité internationale récente, al-Baghdadi prouve qu'il est vivant, lui qui a été donné pour mort à maintes reprises, mais qui serait replié dans le désert syrien. En promettant la poursuite du djihad et en évoquant les attentats de Pâques au Sri Lanka, il tente de remobiliser, montrer que l'État islamique n'a pas disparu, mais bien basculé dans la clandestinité.
Le groupe État islamique à l'origine, donc, ces derniers jours, entre autres, des attentats au Sri Lanka qui ont fait 253 morts. Dans l'Inde voisine, les autorités ont arrêté un disciple de l'organisateur présumé des attaques sri-lankaises. Un disciple arrêté donc alors qu'il avait l'intention de commettre un attentat, lui, dans le sud de l'Inde. Il doit être présenté à un juge aujourd'hui. Et puis hier soir, par ailleurs, les États-Unis ont répondu à la vidéo d'Aboubakar al-Baghdadi promettant de poursuivre tous les dirigeants de Daesh. Pour garantir, dit Washington, pour garantir la défaite durable de ces terroristes. Les États-Unis encore, où débute en ce printemps 2019 la campagne pour la présidentielle de 2020. Et un homme semble inquiéter un petit peu Donald Trump. Assez, en tout cas, pour qu'il écrive des tweets moqueurs longuement, c'était hier soir. Cet homme qui inquiète est Joe Biden. Il a 76 ans, ancien vice-président démocrate. Il faisait hier son premier meeting de campagne et il a choisi pour cela de rester sur ses terres. C'est un reportage de Loïc Loury.
Joe Biden fait le choix de la Pennsylvanie comme premier déplacement de campagne. Un État traditionnellement démocrate, mais perdu en 2016 à l'avantage de Donald Trump. Alors rapidement, l'ex-vice-président réputé populaire auprès des cols bleus leur adresse son message, il compte sur eux.
Vous êtes la colonne vertébrale de cette nation. Ce n'est pas une hyperbole. Très sérieusement, les amis, si je dois battre Donald Trump en 2020, c'est ici que ça se passera.
Face à ses travailleurs, Joe Biden pousse plutôt vers la gauche. Accès aux études, santé pour tous, salaire décent. Manière de parler à ceux qui avaient voté pour Donald Trump en 2016. Manière aussi de chasser sur les plates-bandes du socialiste Bernie Sanders son concurrent le plus sérieux en s'attaquant aux puissances de l'argent.
Laissez-moi vous le dire simplement et clairement, et je le pense, le pays n'a pas été bâti par Wall Street et les patrons, c'est vous qui l'avez bâti.
Mais Joe Biden n'en reste pas moins un centriste, un homme de consensus. Il faut, dit-il, rassembler le pays.
Donald Trump est le seul président, le seul qui a décidé de ne pas représenter l'ensemble du pays. Le président travaille pour sa base. Nous avons besoin d'un président qui travaille pour tous les Américains.
À l'arrivée, 26 minutes de discours plutôt convenu peut mieux faire en ce qui concerne le charisme ou l'énergie. Il lui en faudra pourtant pour tenir près d'un an avant la première primaire face à des candidats, pour certains deux fois plus jeunes que lui.
Il est assurément l'un des plus fidèles alliés des États-Unis et surtout de Donald Trump. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou négocie toujours pour former son gouvernement. Pendant ce temps et trois semaines après les élections législatives dans le pays, les nouveaux députés israéliens vont prêter serment. Aujourd'hui, mardi, la 21e Knesset est encore plus radicale que la précédente. Benjamin Netanyahou va donc s'appuyer sur une majorité très idéologique, Étienne Monin.
Pour former sa majorité, le Premier ministre sortant va puiser dans les rangs des extrêmes. Il devrait siéger avec les ultra-orthodoxes, avec un parti ultra-nationaliste et un parti identitaire qui défend les intérêts des colons. La majorité de Benjamin Netanyahou devrait être plus confortable qu'en 2015 lors des précédentes élections. Il devrait totaliser 65 députés sur 120, mais sa situation personnelle avec l'approche de poursuites judiciaires cet été risque de le rendre otage de ses petits partis idéologiques. Cette nouvelle majorité pourrait chercher à limiter le pouvoir de la Cour suprême, elle pourrait tenter de faciliter l'application de la peine de mort pour les auteurs d'attaques et elle devrait faire avancer la promesse de campagne d'annexer les colonies. Mais le parti du Premier ministre, le Likoud, qui a réalisé un excellent score, aura une marge de manœuvre, estime le politologue Gideon Rara. Ce sera en quelque sorte un moment de vérité.
Cette majorité, avant tout, va reposer sur le Likoud et tout dépendra de la route que va prendre le parti pour conduire Israël, s'il va continuer à se droitiser ou s'il va stabiliser un gouvernement centre-droit.
En face, le premier opposant arrive avec un groupe important, mais il n'est pas homogène. Benny Gantz n'a pas d'expérience et pas d'idéologie clairement définie.
Étienne Monin à Jérusalem pour France Culture. Penchons-nous maintenant sur ce parfum de guerre froide dans les eaux polaires. Une baleine blanche a-t-elle été entraînée au combat par l'armée russe? Des pêcheurs norvégiens ont en tout cas observé la semaine dernière un drôle de manège autour de leur bateau, un beluga portant un curieux harnais d'origine russe, Louise Baudet.
Bec très court, large bouche, pelage immaculé, rien de plus inoffensif a priori que le museau d'un beluga. Mais celui observé à l'extrême nord des côtes norvégiennes a tout de même une curieuse attitude. Pas du tout impressionné par la présence humaine, il s'en prend aux cordes attachées au bateau et son harnais, capable de supporter un appareil photo, voire une arme, est estampillé équipement de Saint-Pétersbourg. Immédiatement, les scientifiques norvégiens soupçonnent les Russes qui, dans les années 80, ont entraîné militairement des dauphins dont la vitesse et la discrétion font de parfaits outils de détection. Programme stoppé dans les années 90, mais il a repris, selon un reportage russe diffusé il y a 2 ans, des baleines, des dauphins, des phoques entraînés pour assister les plongeurs, mais aussi surveiller les entrées des bases militaires et, si nécessaire, tuer tout étranger s'en approchant. Sachant que la Russie ne cache pas sa volonté de contrôler les eaux polaires et a rouvert en 3 ans 3 anciennes bases militaires soviétiques sur ses côtes arctiques.
Il renoncera formellement au trône à 10h ce matin. L'empereur du Japon, Akihito, va abdiquer. Ce n'était pas arrivé au Japon depuis 200 ans. C'est son fils Naruhito, 59 ans, qui va le remplacer. Il deviendra alors le 126e empereur de la plus longue dynastie de la planète.
8h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le gouvernement français a son programme de travail pour les 6 prochains mois.
Un calendrier chargé, défini hier par le Premier ministre. Projet de loi bioéthique et révision constitutionnelle en juillet. Réforme des retraites en septembre. Édouard Philippe a également détaillé les 2 premiers chantiers. Eux doivent s'ouvrir dans les prochains jours. Édouard Philippe.
Dans le courant de la semaine, je signerai la lettre de mission chargeant M. Frédéric Thiriez de me faire des propositions sur la sélection, la formation et le déroulement de carrière dans la haute fonction publique. Je suivrai avec une attention particulière le déroulement des travaux et des propositions qu'il devra me rendre dans 6 mois. Nous lui laissons du temps pour réfléchir, pour consulter. Dans le courant de la semaine, je vais également signer la lettre de mission à la Cour des comptes afin qu'elle puisse réfléchir et faire des propositions au gouvernement sur le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Elles devront être rendues en octobre, ce qui nous permettra d'intégrer ces propositions dans les textes financiers au Parlement qui seront présentés à l'automne.
Lutter contre la fraude fiscale pour financer en fait les 5 milliards d'euros de baisse d'impôts promis par le chef de l'État Emmanuel Macron. Comment lutter efficacement contre cette fraude fiscale? La réduction des niches dans les entreprises ne va pas suffire. Voilà ce qu'explique ce matin Eric Heyer, directeur du département analyse et perspective à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Lorsqu'on regarde dans le détail de ces niches fiscales, on voit bien que la plus grosse, le CICE, ben, est déjà transformée en baisse de cotisation. Il y a bien entendu quelques niches un peu moins efficaces comme celles liées au mécénat, mais aujourd'hui, ça me semble quand même difficile de trouver 5 milliards dans ces niches-là. Donc, il semble plus probable que ce soit dans d'autres dispositifs, comme d'aller rogner un certain nombre de dispositifs de baisse des cotisations au-delà de 1,6 fois SMIC, ça c'est possible. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de doutes sur quels dispositifs pourraient être mis en place pour financer ces 5 milliards.
Eric Heyer, interrogé par Hakim Kasmi. Il y aura bien un bonus-malus pour responsabiliser les employeurs sur les contrats courts. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'affirme dans les colonnes des Échos. Elle évoque un décret pour cet été qui s'attaquera aussi à la permittence et aux cadres à haut revenu. Cela s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. La croissance de la France a atteint 0,3% au premier trimestre 2019, croissance plutôt stable, sous l'effet notamment d'un rebond de la consommation des ménages. Voilà ce que dit ce matin l'INSEE. La croissance est meilleure que celle de ses voisins. L'Europe et les élections qui se profilent, élections qui auront lieu dans un mois. Et cette semaine, France Culture vous propose un tour de campagne dans les pays fondateurs de l'Union européenne. Après l'Allemagne hier, la France ce matin. La France, Anne Fauquemberg, où l'élection du 26 mai prochain ne suscite pas l'engouement.
Selon le dernier état des lieux publié par la Fondation Jean Jaurès, moins de la moitié des Français se disent certains d'aller voter. C'est une constante pour cette élection. En 2009, l'abstention avait atteint les 60% et quasiment 57% en 2014. Cette année, le contexte national avec la crise des Gilets jaunes, le grand débat, mais aussi l'incendie de Notre-Dame n'a rien arrangé. Une entrée en campagne tardive, des programmes pas tous sortis, comme celui de La République En Marche attendu pour le 9 mai et des incertitudes aussi à cause du report du Brexit, des listes initialement prévues à 79 candidats qui repasseraient à 74 avec une réserve de 5 sièges gelés si le Royaume-Uni ne valide pas sa sortie avant le 22 mai. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, 78e sur la liste des Insoumis, se retrouve ainsi dans une catégorie fantôme. Pas de quoi réconcilier les citoyens avec ce scrutin, donc, même si, et c'est tout le paradoxe à voir le dernier eurobaromètre du Parlement européen, 68% des Français estiment que le pays a bénéficier de l'Union européenne et ils sont 62% à penser que c'est une bonne chose d'y appartenir.
Un paradoxe, Anne, qui se traduit dans les rapports de force que l'on observe en ce moment, en cette fin avril.
Ce paradoxe, il apparaît dans ce clivage progressiste mondialiste qu'ont instauré Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La République En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude dans les sondages autour de 20%. Le parti d'extrême droite avait une petite prime ces derniers jours qui ne semble toutefois pas si stable pour terminer premier parti de France en mai prochain. Autour de ce duel, seuls les Républicains arrivent à trouver un petit peu d'oxygène. La liste de François-Xavier Bellamy pourrait remporter entre 14 et 15% des voix à ce stade. Le philosophe de 33 ans incarne une forme de renouvellement et de rajeunissement des têtes d'affiche, mais il n'est pas le seul. Jordan Bardella au RN n'a que 24 ans, Manon Aubry chez les Insoumis est âgée de 29 ans. La liste LFI sérieusement concurrencée par la multiplication des listes de gauche, communistes, ammonistes, socialistes et par des écologistes crédités de 8 à 8,5%. Enfin, y aura-t-il une ou des listes estampillées gilets jaunes? C'est toujours l'incertitude. La clôture pour les candidatures est fixé à vendredi.
Merci Anne Fauquemberg. À retrouver également sur franceculture.fr. Pourquoi les candidats français se mettent à l'écologie? C'était le reportage de la rédaction de ce mardi matin. Demain dans la caravane, nous nous intéresserons à la campagne européenne en Italie. Il avait appelé au suicide des policiers il y a 10 jours lors d'une mobilisation des Gilets jaunes. Un homme jugé hier en comparution immédiate a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. C'était un sombre tableau de la répression aveugle de la police contre les Afro-Américains à Los Angeles dans les années 90. Le film Boys in the Hood, sorti en 92, son réalisateur avait été nommé pour cela à l'Oscar de la mise en scène. Premier réalisateur noir nommé pour un Oscar, John Singleton. Johnson est mort hier, nous l'avons appris, il avait 51 ans. Et puis nous avons par ailleurs appris le décès d'Arnaud Dubus, considéré comme l'un des plus grands experts de la Thaïlande. Il avait publié plusieurs ouvrages de référence et il était intervenu à de nombreuses reprises pour cela sur France Culture. Arnaud Dubus avait 55 ans. Le temps sera encore frais ce matin avant les belles éclaircies de la journée qui vont remplacer les bandes brouillards et quelques pluies sur l'extrême est de l'Alsace ce mardi matin. Comptez donc 10 degrés à Strasbourg, 11 à Lille, 13 à Lyon, 14 degrés à Paris et Bordeaux, 18 degrés ce matin sous le soleil de Marseille.